Et vous allez voir plus tard une image de Disney qui fait vraiment écho à tout ça. Donc les fleurs animées, pour conclure sur ça, c'est un grand succès de l'édition, même si les critiques contemporains sont un tout petit peu déçus, c'est-à-dire ils déplorent dans cet ouvrage-là, ils déplorent notamment le manque de l'expressivité habituelle du trait de Granville. Moi, je pense aussi que, c'est-à-dire si les critiques sont moins sensibles à ce travail-là, c'est parce que ce travail s'adresse tout simplement à des femmes. Mais ça, ce serait encore une autre question. Alors, on commence à rentrer progressivement dans le domaine du cinéma. Et je vais aussi rappeler un personnage que vous connaissez peut-être, qui est celui de cette danseuse américaine, mais qui se produit dès très tôt aux Folies Bergères à Paris, qui est Loy Fuller. Qui va donc inventer en fait une danse, disons une danse, une véritable performance en fait sur la scène des théâtres. Donc elle danse dans le noir, et donc elle va surgir dans le noir de la scène comme une sorte de d'apparition. Donc elle est souvent habillée avec ces draps que vous voyez ici photographiés, représentés. Elle va danser en réalisant des mouvements virevoltants avec ses draps. Et donc, ce qui est important, évidemment, dans ce dispositif, c'est que on va projeter au moment où elle est en train de danser des faisceaux de lumière colorée sur les immenses voiles qu'elle a. Et donc ce spectacle est incroyablement populaire à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Loy Fuller devient une star avant la lettre, hein. C'est quelqu'un d'extrêmement connu et important qui va avoir alors un impact aussi extrêmement considérable dans la culture visuelle de l'époque. Et donc ce qui m'intéresse ici, c'est bien sûr cette idée de la danse est déjà l'ornement du mouvement. Tout cela est très ornemental, mais par ailleurs, Loy Fuller va être souvent comparé à une plante. Hein. Donc, les critiques de l'époque n'arrêtent pas de dire « Voyez, cette danseuse formidable, c'est une plante en mouvement, cette femme est une fleur, elle s'étend lisse, sa corolle s'évase, son corps est en pistil, les pétales gravitent et composent des calices. » Je suis en train de citer effectivement des critiques qui sont rédigées à cette époque même. Alors, Fuller elle-même, je trouve ça assez intéressant, se rappelle dans un livre qui s'appelle « 15 ans de ma vie », la visite de quelqu'un qui s'appelle Camille Flammarion, qui est un scientifique français très important, astronome entre autres, qui vient la voir, qui vient voir son spectacle et qui demande à la visiter dans sa loge et qui lui raconte en fait une expérience qu'il est en train de mener sur l'influence de la couleur sur les plantes. Et donc Loy Fuller va visiter le laboratoire de Camille Flammarion pour vraiment accompagner cette expérience. Alors elle, disons, c'est pas tant la question du végétal qui la passionne, c'est plutôt ce problème de la couleur. Mais encore une fois, on retrouve ici cette espèce de confluence d'éléments qui me semble très intéressante. Alors, il faut savoir aussi que Loy Fuller, je vous le répète, elle est vraiment extrêmement importante à ce moment-là. Il y a toute une suite, toute une série de danseuses qui vont se mettre à imiter ce qu'elle fait. Et on va notamment retrouver dans des ouvrages le type de photographie que je suis en train de vous montrer, où très clairement on fait le rapprochement entre la danseuse et la plante. Alors, elle n'a pas été filmée, mais toutes ces femmes qui l'ont copiée. Bon, du coup, on voit une chauve-souris et pas en papillon, parce qu'elle est aussi souvent comparée en papillon. C'est pas Loy Fuller qu'on va voir à l'écran. Loy Fuller n'a jamais été en fait filmé, mais il y a toute une série de danseuses qui reproduisent donc ces danses féeriques. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc vous pouvez voir très bien pourquoi elle est comparée à un papillon. Mais donc la question du végétal est aussi très, très, très présente. Et donc, ça me permet aussi de peut-être d'annoncer déjà des choses que je vais montrer par la suite. Donc, au tout début du XXe siècle, les premiers films vraiment féeriques, et je vais encore vous montrer d'autres films féeriques, dont celui qui, dans l'image, illustre le programme d'aujourd'hui, les femmes vont parfois se métamorphoser en des plantes et en des fleurs. Et donc, c'est ce que fait notamment Gaston Vell. Et c'est le deuxième film que je vais vous montrer après celui-là. Bien sûr, c'est un film colorié à la main. Donc, tous les films... et donc là, elle disparaît, elle redevient chauve-souris, peut-être. Non. La métamorphose est très importante. Et je vais peut-être tout de suite vous montrer donc ce film de Gaston Vell. Donc, encore une fois, un film colorié. Donc là, on est vraiment au sommet, disons, de cette confluence de l'ornementation du végétal et du féminin, comme vous allez voir. Ce n'est pas la dernière fois qu'on va voir des hommes agresser des fleurs et des femmes les aider. Je peux commenter le décor. On est, disons, dans une configuration absolument caractéristique de ce cinéma des premiers temps, c'est-à-dire c'est en film tableau avec des décors qui renvoient véritablement, c'est pourquoi j'ai voulu montrer ces images du 19e siècle, mais qui renvoient effectivement à toute une série de références antérieures. On est dans un régime qui est pour moi vraiment ornemental à cause aussi de la couleur. Et donc vous voyez, c'est un film truqué, hein, et les petites fleurs ont des têtes de femmes qui deviennent par la suite des danseuses. Et cela est aussi intéressant, hein, la question de la danse, du rythme. On va le voir dans un film allemand des années 20 où cette question est très importante. Et donc le coloriage accentue cette dimension ornementale. Hein, la couleur aussi est pensée comme un ornement. Donc je n'ai pas vraiment le temps de commenter tout ça dans le détail. Là, on peut arrêter. Donc oui, bien sûr. Donc là, on est vraiment, il y a toute une confluence d'éléments et de notions esthétiques qui sont importantes et qu'il faudrait commenter dans le détail. L'ornement, la couleur, le féminin, tous les trois sont liés. Et le végétal, du coup, donne forme à ces trois éléments ici. Et c'est ça qui me semble intéressant. Alors, pour avancer vite et pour rentrer aussi dans ces références germanophones non sous-titrées que je vous ai promis... alors, c'est un film un peu plus tardif et qui est bien sûr très différent de ce que je viens de vous montrer, mais où cette question de la métamorphose plante-femme et femme-plante est très présente. Et c'est par ailleurs, alors ça pourrait résonner avec la présentation de Samir, parce que donc, le film s'intitule Mandragore. Hein, comme vous le savez, c'est une plante qui a des vertus magiques et aphrodisiaques. Et donc le film qui est un film tourné, réalisé par Henrik Galling, qui est donc un réalisateur et un scénariste allemand très important, mais qui a été un peu oublié. C'est le scénariste notamment de Nosferatu de Murnau. Donc il va réaliser en 1928 ce film qui est extrêmement intéressant parce que donc on a affaire à un scientifique qui s'intéresse au problème de l'héritage génétique, hein, en 1928 en Allemagne. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc ce scientifique décide d'inséminer une prostituée avec une mandragore, incroyable mais vrai, c'est l'histoire du film. Et donc son idée, donc, comme vous le savez ou peut-être pas, donc la mandragore est censée pousser à l'endroit où les hommes sont pendus, donc en étant pendus, ils éjaculent et donc fertilisent la terre. La mandragore pousse. La mandragore est connue aussi, donc cela est rappelé aussi au début du film, comme étant une racine qui pourrait aider, faire en sorte que les femmes tombent enceintes. Et donc le film part de cette expérience scientifique. Et donc ce que veut en fait le scientifique en question, c'est créer un être humain qui n'aurait pas de sentiments. Hein. Donc ses parents viennent des bas-fonds de l'humanité. Et donc je vais vous montrer deux petits passages. Et il y a notamment le deuxième, peut-être juste en seul, puisque je commence à voir que le temps va vite. Alors, je vous montre juste en passage, du coup, pas de sous-titres, je pense, pas de carton à traduire, et où on voit, donc, par ailleurs, Mandragore, c'est le nom, bien sûr, de la fille qui va naître, donc, de cette prostituée que le scientifique va élever et qu'il va observer tout au long de sa vie. Il va enfin tomber amoureux de cette femme. Et on voit une séquence où la mandragore se transforme en femme. Et donc, cela me semble. Donc, cette idée de la métamorphose est assez intéressante aussi. Ah oui, et Mandragore est jouée par Brigitte Helm, que vous connaissez peut-être de Métropolis. Donc là, il est basiquement désespéré parce qu'il a compris qu'il est amoureux de Mandragore, que Mandragore, par ailleurs, fait la fête au cabaret tout le temps et ne s'intéresse pas du tout à lui. C'est un film vraiment très intéressant à découvrir. Et voilà notre Mandragore. Donc, en fait, il y a toute une séquence sur la racine au début. Sur le mythe, sur la racine, qui est très intéressante, mais bon, on n'a pas le temps de la voir. Et donc là, Mandragore surgit. Donc, toute petite séquence, mais juste vraiment encore une fois pour insister sur ce problème de. Sur cette question de la métamorphose et de cette association, effectivement, entre le végétal et les femmes. Donc, encore une fois, il y aurait beaucoup de choses à creuser, à développer par rapport à ça. En dernier exemple, qui est un tout petit peu différent parce que ce n'est pas tant la question de la métamorphose, mais en quelque sorte, on revient dans un régime ornemental, c'est ce téléfilm de Fassbinder qui s'appelle Martha, qui raconte l'histoire de cette femme, une trentenaire vierge qui finit par se marier avec un homme très cruel qui va la maltraiter. Elle aurait eu bien besoin, je pense, d'une plante pour punir les maris. Mais donc, elle va souvent se retrouver toute seule dans cette serre antérieure, dans sa maison, dans la maison style victorien où elle va habiter. Et donc, il y a vraiment une association qui est faite entre cette femme, qui, alors là, toute la façon dont Fassbinder va utiliser la couleur, les cadrages, etc., renforce aussi cette idée d'une femme qui devient en quelque sorte une âme végétative. Et sur cette notion d'âme végétative, je suis consciente, il faudrait aussi développer toute une série de choses. Mais donc, elle est véritablement associée à cette question de l'être végétal qui n'a pas de parole, du coup, et qui sera progressivement soumis par ce mari extrêmement cruel. Et donc, on retrouve très régulièrement, alors, à chaque fois qu'elle est dans le cadre, elle est souvent entourée de plantes, que ce soit chez elle ou quand elle se confie à des amis. Je pense que je n'aurai pas le temps de vous montrer un passage de ce film. Je vais avancer vite et peut-être que je vais même aller un peu vite. Ces films que j'appelle les herbiers cinématographiques, je fais référence à quoi ? Donc, tout au long des années 20, il y a une série de films qui sont souvent des films scientifiques qui, grâce au procédé du ralenti ou de l'accéléré, bon, surtout de l'accéléré hein, pour ce qui est des plantes, vont révéler la vie des plantes qui est, disons, invisible à l'œil nu. Donc, on a souvent affaire à des films de ce genre-là, hein, que ce soit, alors, cela concerne beaucoup, beaucoup de pays, donc la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Union soviétique, le Royaume-Uni. Et donc, ce sont des films qui vont véritablement surgir au regard des spectateurs de l'époque comme une révélation. On n'arrête pas de répéter ce mot. Et donc, ce sont des films qui vont susciter même une énorme empathie. Hein, je vais vous projeter quelques passages de la critique de l'époque. et donc qui permettent à, aux spectateurs de l'époque de redécouvrir hein, cette âme végétale. On parle réellement de l'âme des végétaux à cette époque-là. On parle réellement de l'élargissement des frontières du vivant. On parle réellement aussi, comme vous allez voir, de l'effacement des frontières entre l'inerte, le vivant, etc. Donc ce sont des films qui bouleversent encore une fois les spectateurs de l'époque et qui vont remettre au goût du jour, donc comme je vous disais tout à l'heure, toute une série de thèses beaucoup plus anciennes qu'il faudrait alors parfois faire reculer, voire même à l'époque pré-moderne, c'est-à-dire avant aussi le 19e siècle, ou alors qui vont vraiment résonner par rapport au travail en particulier d'un biologiste allemand lui aussi, qui s'appelle Jacob von Wechsel, et qui s'intéresse beaucoup à la question des rythmes de vie non humains. Et donc le film que je suis en train de vous montrer s'appelle Le miracle des fleurs. C'est un film allemand de 1926, qui est un film qui a vraiment eu une importance absolument centrale en Allemagne à cette époque-là, qui est discuté par toute une série d'auteurs, parmi lesquels Benjamin, et qui est un film absolument étonnant parce que déjà c'est un long métrage, il ne s'agit pas d'un petit court métrage scientifique tout simplement, c'est ce qu'on appelle en culture film qui a la particularité d'être financé par une entreprise d'engrais, hein, encore une fois incroyable mais vrai, donc il nous raconte l'histoire d'une fée qui va surprendre des enfants qui au début du film sont en train de cueillir les fleurs et de les piétiner, et la fée leur dit: les enfants, qu'est-ce que vous faites? Les plantes et les fleurs sont des êtres vivants, les plantes sont des êtres vivants, je vais vous montrer comment. Donc il y a toute une série de passages, alors vous voyez que le film est assez original, donc deux séquences qui sont tournées en accéléré qui permettent effectivement de voir le développement des plantes, et par la suite il y a donc tout ça monté avec des images de danseurs donc d'une compagnie berlinoise qui vont mimer à l'écran les gestes des plantes, et donc ce sont aussi donc ces images avec des personnes qui bougent qu'on a vu. Alors ici, ce n'est pas tant la question des femmes, même s'il y a parfois effectivement des femmes qui vont danser comme des fleurs ou comme des plantes. Mais vous voyez, c'est un film intéressant aussi par rapport à ce problème du rythme. Bien sûr, l'utilisation de l'accéléré en tant que procédé cinématographique ouvre sur ce domaine du visible qui était, disons, inconnu jusque-là à l'homme. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est aussi ce pari de... en fait, alors, on pourrait dire que les danseurs, en quelque sorte, viennent à anthropomorphiser la plante, mais de fait, au départ, l'idée, c'est exactement l'inverse, c'est de végétaliser les danseurs, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils reproduisent ces mouvements des végétaux. Et donc, c'est un film vraiment très intéressant. Il y en a d'autres. Je vais revenir à ça. Et donc, pour aller vite, vous voyez, je ne vais pas insister non plus beaucoup sur ça, mais je vous disais que ces films suscitent une énorme empathie. Et juste ce petit passage de Germaine Dulac, nous sentons visuellement la peine qu'a une tige pour sortir de terre et fleurir. Le cinéma nous fait assister en captant ses mouvements en conscience, instinctifs et mécaniques, à ses élans vers l'air et la lumière. Il y en a d'autres passages hein, où Colette notamment raconte comment des enfants s'excitent devant ce type d'image. Jean Epstein, qui est donc un cinéaste français assez important dans cette histoire, écrit sur ça en 1935 et dit des choses qui sont vraiment assez intéressantes, c'est-à-dire l'idée effectivement que ces formes filmiques ou ces ressources expressives du cinéma qui sont l'accéléré ici dans ces films scientifiques viennent effacer les frontières entre les règnes de la nature, etc., etc. Donc la pourriture est une renaissance, cela est particulièrement intéressant dans certains films qui s'intéressent sur les champignons ou les moisissures. Il y a des films qui vont effectivement anthropomorphiser les plantes, imposer aux plantes en fait des instants meurtriers, comme il est dit dans ce carton de 1923. Le film de britannique The Strangler fait vraiment un rapprochement entre la plante et la figure de l'étrangleur. Et peut-être que c'est aussi une façon de de rentrer dans ce phénomène d'anthropomorphisation du végétal qui est totalement mis en place par Disney. Et Disney, encore une fois, comme je vous le disais, s'inspire beaucoup donc du travail de Granville. Je vais avancer vite sur ces autres fictions parce que ce qui m'intéresse, c'est d'arriver dans le temps qui me reste aux années 70. Tout au long des années 50-60, il y a une série de films de science-fiction qui vont s'intéresser au végétal. Peut-être que le plus connu est La chose dans notre monde où l'extraterrestre pousse sous forme de carottes, notamment. Toute une série de films de série B comme La révolte des Trifides ou Conga, des films britanniques très mauvais des années 60, où des plantes, pour des raisons différentes, deviennent des plantes assassines et s'attaquent entre autres à des femmes, mais ça c'est un petit détail sur lequel il faut pas insister. Ce qui m'intéresse donc, c'est juste de conclure sur ces années 70, parce que donc à ce moment-là, je vais un tout petit peu parler du pouvoir des plantes et on regarderait en extrait. Parce que notamment grâce à la publication de ce livre qui a eu un impact absolument gigantesque aussi à l'époque, qui s'appelle The Secret Life of Plants, qui est rédigé par Peter Tompkins et Christopher Bird, disons que le public, en général, est venu à s'intéresser à cette question de la sentience des plantes, à l'idée que les plantes sont des êtres sensibles, intelligents, avec lesquels on peut effectivement communiquer et écouter. On parlait tout à l'heure d'écouter la coca. Il faut savoir que c'est aussi à partir de la fin des années 60, début et années 70, qu'on voit notamment, alors c'est ce monsieur que vous voyez à l'écran, et Clive Barker, c'est un fonctionnaire de la CIA qui un jour décide de brancher un polygraphe à une plante. Comme ça, il s'ennuyait au bureau. Et il se rend compte que la plante réagit, c'est-à-dire que s'il approche son briquet, la plante réagit et donc le polygraphe commence à sauter. Et donc c'est notamment sur ce genre d'expériences qui sont par ailleurs extrêmement controversées, qui ont été totalement démenties par les scientifiques, que Peter Tompkins et Christopher Bird s'intéressent. Ils font ce livre. C'est ce livre donc, qui va inspirer ce film de série B que je vais vous présenter dans un instant. Mais je voulais juste vous rappeler que exactement à peu près à la même époque au Japon, Monsieur Hashimoto, qui est un scientifique très important, si vous êtes familier des problèmes de thyroïde, vous avez déjà entendu parler de Monsieur Hashimoto. Alors Monsieur Hashimoto a aussi l'idée de brancher un polygraphe à un cactus, et il remarque que le cactus réagit et sa femme Madame Hashimoto décide d'apprendre l'alphabet japonais à ce cactus. Et j'ai pas le temps de vous montrer ces images, mais donc ces images qui sont par ailleurs reprises dans plusieurs films et qui sont à l'origine aussi d'un film très très récent d'Élise Florenti et Marcel Turkowski qui s'appelle Conversation avec un cactus. Là, on entend le cactus parler et répéter les lettres de l'alphabet japonais. Ça se retrouve aussi dans d'autres productions de l'époque-là. Cette idée que le polygraphe nous permet justement de rentrer en contact avec les plantes rentre totalement dans la culture populaire des années 80. C'est une image dans le livre que j'avais au début des années 80 quand j'étais enfant, qui m'a beaucoup marquée par ailleurs, puisque ça racontait cette expérience horrible de jeter un animal vivant dans l'eau bouillante et de voir ensuite comment la plante réagissait. Je veux conclure sur Jonathan Sarno, donc la vie en sympathie avec les plantes, pour vous dire qu'effectivement, cette idée de pouvoir communiquer, alors c'est une idée qui est très très en vogue à l'époque, que par ailleurs, alors encore une fois, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ça. Mais donc dans ce film qui s'intitule en anglais The Kirlian Witness, parce qu'on y parle aussi de photographie kirliane, qui est cette photographie des auras, qui est développée par un scientifique soviétique. Et donc dans ce film, on parle aussi de ça. Qu'est-ce que le film raconte? Il raconte l'histoire d'une femme qui enquête sur le meurtre de sa sœur. Et le seul témoin, il s'avère que le seul témoin du meurtre de sa sœur est une plante. Et elle va faire le possible et l'impossible pour rentrer en communication avec cette plante, en s'appuyant notamment sur ce livre-là, The Secret Life of Plants. Donc, c'est un film de série B, très mauvais par ailleurs, mais qui est vraiment en rapport avec ce qui se passe à ce moment-là. C'est un film très intéressant parce que la voix off est féminine, parce que les hommes sont systématiquement décrits comme vraiment des créatures violentes et agressives, à la fois envers les femmes et les plantes. Hein. Il y a une autre séquence que je n'aurai pas le temps de vous montrer où il y a un homme qui vraiment s'attaque aux plantes parce qu'il a envie de s'attaquer à sa femme, basiquement. Donc, encore une fois, vraiment, ce serait très intéressant d'en parler dans le détail par rapport à cette question, encore une fois, de cette association féminin et le végétal. Mais ici, ce sont les femmes qui ont véritablement cette capacité de communiquer donc, avec les plantes. Et je vais vous montrer un tout petit passage.
Well, where did you get this plant?
Lori brought it back from Findhorn. Saw her being killed.
Donc là, c'est une photo de son mari. Elle soupçonne son mari d'avoir tué sa sœur et donc elle est devant la plante qui a été témoin du meurtre. Elle regarde la photo, elle essaie de créer un rapport télépathique. Là, on a le point de vue de la plante. Ça, c'est sa sœur qui s'est fait assassiner. C'est effectivement le meurtre. Donc la plante lui donne à voir le moment du meurtre.
He looked away from the plant. He stared at me. The skin seemed to tighten over his face. His eyes sank into his head.
J'arrête là parce que j'ai vraiment... il y aurait beaucoup de choses à dire sur ça, mais peut-être que c'est intéressant d'avoir un petit moment de débat. Donc, je vous avais dit que c'était un parcours très impressionniste et pas très académique. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est justement ce contexte des années 70 et j'espère très bientôt pouvoir vous inviter à quelques projections avec des films un peu fous. Voilà.